3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Henry Blythe Halicki, de son petit nom Toby, est un acteur, scénariste, producteur et réalisateur américain né le 18 octobre 1940 à Dunkirk, dans l'État de New York, aux États-Unis. Son père, John Halicki, était originaire d'Autriche et fut un mécanicien et vendeur d'automobiles. Il ouvrira son propre atelier de réparation automobile Halicki Garage en 1919, qui deviendra une entreprise familiale en octobre 2020. Toby était l'un des 13 enfants, dont certains étaient des demi-frères et sœurs du premier mariage de son père. À l'âge de 15 ans, Toby quittera New York et atterrira à Gardena, en Californie, avec l'aide de son oncle, bien que la légende raconte que sa ruée vers l'ouest a été stimulée après que sa mère ait tenté de lui interdire d'obtenir un permis de conduire à New York. Commençant à comme préposé à une station-service avec seulement 40 $ en poche, il a finalement suivi les traces de son père avec son propre atelier et sa cour de remorquage. En 1968, il sera arrêté pour le soi-disant vol de voitures lié à une série de crimes survenus dans deux aéroports de la Californie. Dans ses accusations, on prétendra que Halicki avait remplacé les plaques, cylindres de serrure et les pièces numérotées en série des véhicules volés avec les pièces de rechange récupérées d'une voiture mise au rancard. Ces voitures auraient par la suite été revendues à des acheteurs sans méfiance. Toutes les accusations contre Halicki furent finalement abandonnées, mais cette situation inspira le scénario d'un de ses films, soit Gone in 60 Seconds, en 1974. Rapidement, il construira un empire lorsqu'il s'impliquera dans l'immobilier et commencera à réaliser que la clé de son succès futur serait à Hollywood. Avec les années, l'homme avait amassé une chaîne d'approvisionnement de véhicules, de bons amis, ainsi qu'assez d'argent dans sa poche pour se payer une pile de bobines de films. Ce ne sera pas avant 1973 qu'il produira son tout premier long-métrage intitulé « Love Me Deadly ». Ce sera cependant en 1974 qu'Halicki écrira, réalisera, produira et jouera dans le film « Gone in 60 Seconds », film qui lui donnera alors sa notoriété à Hollywood, ayant dans ce long-métrage tourné ce qui deviendra la plus longue poursuite en voiture de l'histoire du cinéma, environ une quarantaine de minutes, et ce, sans presque aucune autorisation. Après avoir épousé Denise Shakarian en 1983, Halicki perdra la vie le 20 août 1989 après qu'une cascade sur son nouveau film « Gone in 60 Seconds 2 » ne tourne mal, l'acteur cascadeur étant tué sur le coup lorsqu'une tour à eau de plus de 160 pieds de haut s'effondra lors d'une cascade des plus dramatiques de son nouveau long-métrage. Il n'était alors âgé que de 48 ans. Donc, sortez vos talents de conducteur et préparez-vous à piloter votre Eleanor à fond de train puisque je vous parlerai ici de deux longs-métrages de poursuite automobile dont le classique Gone in 60 Seconds, réalisé au milieu des années 70, ainsi que son remake, fait en 2000, tout en survolant le film inachevé de Gone in 60 Seconds 2, commencé en 1989, mais qui ne sera jamais complété dû à l'accident mortel de son créateur, Henry Blythe Halicki.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
I'm sorry, sir. This is a private mountain.
But I only wanted it.
This mountain is reserved for patrons of drive-in theaters.
But
it's a supply depot for all sorts of good things, which people can get at the snack bar. Like soft drinks, hot dogs, good hot coffee, candy bars of all kinds, delicious popcorn, and refreshing ice cream treats.
But I am a patron of this drive-in.
Well, why didn't you say so? Be our guest.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
Out of life. Go out to a movie.
This is Maindrian Pace, number one car thief in America. He'll steal anything, anytime, as long as it's insured.
Read my horoscope this morning.
His front, insurance investigation. His business, stealing cars. And now he's got to fill the biggest contract yet.
We gotta deliver over 40 cars to docks by Saturday.
That's a sad story.
Listen.
You can lock your car, but if he wants it, it's gone in 60 seconds. Things don't always go as planned, even for a pro. Sometimes when you steal a car, you get more than you bargained for.
Holy shit!
Hera.
Who is it?
Police! The whole damn thing's loaded.
Fasten your seatbelt for what CarCraft magazine calls the most hair-raising chase scene ever filmed. Hollywood Reporter says it's a thrill a minute. You owe it to your car to see Gone in 60 Seconds. It's Grand Theft Entertainment. Gone in 60 Seconds. Rated PG.
Gone in 60 Seconds, ou La Grande Casse, est un drame policier qui a été distribué par les studios H.B. Halicki Junkyard and Mercantile Company le 28 juillet 1974. Ce film américain d'une durée de 105 minutes a coûté moins de 150 000 $ à produire, mais amassera plus de 40 millions de $ à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on peut y trouver bien sûr Henry Blight Halicki, ce réalisateur américain qui nous avait donné les films The Junkman et Deadline Auto Theft. On le retrouvera également au poste de producteur, lui qui avait produit les films Love Me Deadly et The Junkman. Et il sera également le scénariste de ce film, lui qui a écrit les scénarios de Deadline Auto Theft et The Junkman. Au niveau de la distribution, eh bien, on y retrouve bien sûr H.B. Halicki, Marion Boussia, Jerry Dorgirda, James McIntyre, George Cole, Ronald Halicki et Marcos Kotsikos. Un spécialiste en vol de voiture, travaillant sous le couvert d'un service d'enquête pour les compagnies d'assurance, accepte une commande passée par des gangsters mexicains pour voler plus de 48 voitures en moins de 5 jours. Mais l'homme sera pris en chasse par la police alors qu'il tente de voler sa dernière voiture, un Ford Mustang 1973 de couleur jaune, nommé Eleanor. H.B. Halicki était un homme d'affaires non-conformiste, obsédé par les voitures. Connu de tous simplement sous le nom de Toby, Halicki suivra des cours d'immobilier et en gravira lentement les échelons. Possédant alors l'une des plus grandes collections de voitures et de jouets au monde, Toby décidera de faire le plus grand film automobile de tous les temps. Malgré le fait qu'il n'avait aucune expérience cinématographique, il se lancera dans le milieu et décidera au début des années 70 de réaliser un film dans lequel il réaliserait l'une des plus longues et spectaculaires poursuites en voiture de l'histoire du cinéma. C'est alors qu'il écrira un scénario de base se basant sur une situation qui l'entraîna face à la justice à la fin des années 60. Au final, il n'y aura jamais de scénario officiel à part plusieurs pages décrivant les principales séquences de dialogue, mais que cela ne tienne, Halicki décidera alors de financer lui-même son long-métrage et de le réaliser, gardant ainsi plein contrôle de sa vision. Une fois son histoire écrite, Halicki décidera d'employer sa famille et ses amis au lieu d'acteurs professionnels afin de jouer des rôles dans son film, décision prise afin de réduire le budget au maximum. Propriétaire prospère d'une cour à scrap automobile à Gardena, en Californie, le jeune cinéphile financera alors son budget en vendant des véhicules de luxe accidentés. Toby investira plusieurs milliers de dollars sur la totalité des véhicules qui apparaîtront dans son futur long-métrage, principalement sur des voitures de police, un camion à ordures, trois camions de pompiers et d'autres voitures qui serviront à produire les différentes poursuites, ces véhicules ayant été achetés dans des enchères de la ville de Carson en 1972 pour un prix moyen de 200 $ chacun. Tous les véhicules seront alors entreposés pendant plus d'un an jusqu'au début de la production en 1973. Avant le début du tournage, le réalisateur-producteur prendra un accord avec le maire de la ville de Carson, Sak Yamamoto, afin de pouvoir tourner dans sa ville. Le maire acceptera même que tous les personnages du film faisant partie des services d'urgence soient joués par de véritables policiers, pompiers ou ambulanciers paramédicaux. Même le maire lui-même apparaîtra dans son propre rôle. Toby obtiendra en plus la participation de certaines célébrités de la course automobile américaine qui obtiendront alors des caméos dans son long métrage, tels que Parnelli Jones, G.C. Agajanian et Gary Bettenhausen. La production débutera en août 1973 et durera jusqu'en novembre de cette même année. Une grande partie de l'action et des dialogues seront alors improvisés par les acteurs et l'équipe de production au fur et à mesure qu'avançait le tournage. Pour sa voiture vedette, la Ford Mustang jaune vif de 1973, qui portait le nom d'Eleanor, Halicki achètera un modèle de 1971 et la remaniera pour qu'elle ressemble à une Mustang de 1973. Il ajoutera aussi une cage de sécurité de style NASCAR au véhicule, ainsi qu'un harnais à double résistance et une ceinture de sécurité en plus d'un châssis renforcé pour faire face aux multiples impacts nécessaires aux différentes cascades, et il rajoutera plus de 3 tôles d'acier de 3/8 de pouce pour protéger le dessous de la voiture. Afin d'avoir une meilleure vue des folles poursuites automobiles, la production montra également une caméra sur le siège arrière de l'engin. Plus de 11 voitures originales furent bâties pour le film, dont 4 se retrouveront dans la production. Ayant un mince budget, Toby profitera de tous les événements entourant de véritables accidents qui surviendront durant la production, incluant le véritable déraillement d'un train qui ne faisait pas partie du scénario de tournage original, mais qui fut par la suite incorporé dans le film. La production aura plusieurs incidents majeurs, la totalité des séquences de poursuite n'étant préparée qu'au moment qu'elles étaient tournées. Ce sera Halicki lui-même qui exécutera toutes les cascades à l'intérieur de la Mustang. L'un des accidents les plus sérieux arrivera lorsqu'Halicki verra son véhicule être dévié par la voiture d'un autre cascadeur et qu'il ira s'écraser violemment contre un poteau télégraphique. Halicki sera blessé gravement durant cette séquence, se retrouvant même à l'hôpital, ce qui retardera le tournage de plus de 3 semaines. Une autre cascade qui ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu a été la poursuite sur le terrain du concessionnaire Cadillac de Ronald Moran. Pour obtenir l'effet de voitures glissant les unes dans les autres lorsqu'elles furent heurtées par une voiture de patrouille, les cinéastes mettront de l'huile sous les pneus des premières voitures pour les aider à glisser. Cependant, quand est venu le temps de faire la cascade, cela a beaucoup trop bien fonctionné et de nombreuses Cadillacs de l'agence qui étaient à vendre ont été également gravement endommagées. Halicki dut les acheter, une dépense non prévue dans son budget. Toby utilisera son propre atelier de réparation pour les scènes de l'atelier à Chase Research. Cependant, il devra arrêter parfois le tournage pendant quelques jours afin qu'il puisse réparer des voitures et ainsi gagner de l'argent additionnel pour continuer la production de son film. D'autres incidents surviendront durant la production, notamment lorsqu'une voiture de patrouille va se renverser, l'officier à l'intérieur étant presque écrasé lorsque le toit de son véhicule cédera lors de l'impact. Dans une autre séquence, G.C. Agajanian Jr., fils du célèbre promoteur de l'équipe de course US IndyCar et Midget Car, interprétait alors un détective dans la séquence d'un barrage routier et sera presque tué lorsqu'Eleanor percutera une voiture de police banalisée derrière laquelle il se tenait. La scène, comme toutes les autres dictées précédemment, sera laissée dans le film. Mais la cascade la plus mémorable demeure cette séquence finale où Eleanor effectuera un saut de plus de 30 pieds dans les airs et atterrissant plus de 128 pieds plus loin sur la route. Suite au tournage de la dite séquence, Halicki subira une compression de la colonne vertébrale lors de l'atterrissage qui compactera 10 vertèbres. La blessure ne sera pas grave, mais Halicki gardera des séquelles de ce saut jusqu'à la fin de ses jours. À l'exception de quelques figurants, la majeure partie des passants et membres du public dans le film seront de véritables personnes vacant à leurs occupations qui n'avaient aucune idée qu'un film était en train d'être tourné. Cela a provoqué plusieurs incidents où les gens ont supposé qu'une véritable poursuite policière était en cours, beaucoup essayant d'aider les victimes des divers accidents. Mais ce sera durant une séquence se passant à une station-service où le personnage Darryl Smith est arrêté que la situation faillit mal tourner. En effet, les civils qui se trouvaient alors sur place lors du tournage faisaient partie d'un véritable gang de motards qui ont alors véritablement agressé verbalement les policiers qui arrêtaient l'acteur et exigeant qu'ils le laissent tranquille. Afin d'apaiser les esprits, Toby réutilisera ces mêmes motards pour une autre séquence durant la fameuse poursuite finale. Suite au tournage, ce sera un véritable cauchemar pour le monteur Warner Leighton de faire le montage final du long-métrage, n'ayant aucun scénario sur lequel se baser, ce qui explique pourquoi le film semble par moments aller dans toutes les directions. Mais, au final, Gone in 60 Seconds sera surtout reconnu pour sa quantité incroyable de voitures endommagées sur le film, plus de 127, dont 93 dans la célèbre poursuite finale de 40 minutes. Gone in 60 Seconds aura sa première mondiale en juillet 1974 à Long Beach, en Californie. Cela provoquera presque une émeute lorsque plus de 2000 personnes furent refoulées à l'entrée parce que le cinéma était déjà plein. Halicki organisera une cascade grandiose lors de cet événement, se rendant au théâtre dans une Eleanor, suivie par plus de 10 voitures de police. La poursuite s'arrêtera de façon spectaculaire devant le cinéma lorsque Halicki emboutira une Cadillac Eldorado. Suite au succès de cette avant-première, Halicki s'est vu alors proposer des accords de distribution de la part des grands studios indépendants avec des avances variant entre 100 000 et 500 000 $. Mais le producteur refusera ses offres et décidera de s'occuper lui-même de sa distribution, injectant près de 750 000 $ de sa fortune personnelle pour faire de la publicité et distribuer son long-métrage. Toby projettera alors son film au Festival du film d'Atlanta, qui deviendra alors l'un des films les plus populaires de l'événement et déclenchera des offres de distributeurs étrangers atteignant entre 90 000 et 100 000 $. Le film amassera environ 2 millions de dollars au cours de ses premiers mois de sortie, mais Haneke critiquera publiquement les propriétaires de théâtre pour leur inefficacité, leur paresse et leur malhonnêteté, la promotion de son long métrage étant contrecarrée par des pratiques contraires à l'éthique. Malgré cela, Gone in 60 Seconds amassera au final plus de 40 millions de dollars à travers le monde entier. Ce film sera le seul de l'histoire du cinéma nord-américain à inscrire le nom d'un véhicule comme acteur ou actrice principale de son générique. Dans les années qui suivirent, Haneke continuera à réaliser des films avec des voitures, dont l'excellent Junkman en 1982, où plus de 150 véhicules furent saccagés durant la production, brisant par le fait même un record du monde Guinness. Mais ce sera en 1989 que Toby perdra tragiquement la vie durant le tournage du film Gone in 60 Seconds 2. Ce sera avec son épouse, Denise Shakarian, qu'il développera le scénario de cette suite tant attendue. Avant le début de la production en 89, il achètera plus de 400 véhicules qu'il voulait utiliser dans une seule grande séquence de poursuite de voitures dans l'espoir de créer une plus grande échelle pour le film. La production de Gone in 60 Seconds 2 débutera à Tonawanda, à New York, ville natale de Haneke. Juste avant le début du tournage, le cinéaste déclarera aux journalistes qu'après avoir frôlé la mort lors d'une autre production, il avait décidé de renforcer la sécurité sur le plateau et d'effectuer lui-même que des cascades moins compliquées, laissant le travail plus risqué à d'autres confrères cascadeurs. Cependant, ce sera lors de la mise en place d'une cascade élaborée dans laquelle un château d'eau de plus de 160 pieds de haut devait tomber en direction de la voiture qu'il conduisait. Toby Haneke perdra tragiquement la vie lorsque la structure en question s'est effondrée prématurément, renversant un poteau téléphonique qui s'est alors écrasé sur l'homme, le tuant instantanément. Heureusement, les autres membres de l'équipe de tournage purent se mettre à l'abri à temps. Haneke n'était âgé que de 48 ans. La production de Gone in 60 Seconds 2 sera alors interrompue, puis annulée. Dans un article paru par la suite, il fut spécifié que le réalisateur-producteur avait été obligé de souscrire une police d'assurance de plus de 8 millions de dollars pour Gone in 60 Seconds 2 parce qu'un fonctionnaire de la ville de Tonawanda avait exigé cette sécurité après l'avoir accusé de planification laxiste en matière de sécurité. Suite à cet incident, la succession dut faire face à un certain nombre de défis juridiques concernant les droits de Denise Shakarian Haneke sur les films de son mari et surtout sur le nom d'Eleanor. Après 7 procès, en 1994, le tribunal a rendu les films de Haneke et les droits d'auteur associés à ces derniers à Denise Shakarian Haneke, mais celle-ci fut forcée de vendre la collection de voitures et de jouets de son mari afin de payer les frais juridiques. La jeune femme prévoyait par la suite de terminer le rêve de son défunt mari et de faire un nouveau film de Gone in 60 Seconds basé sur le film inachevé de 1989. C'est alors qu'elle signera une entente avec Touchstone Pictures et le producteur Jerry Bruckheimer pour produire un remake du premier film de son mari. Une version numérique de Gone in 60 Seconds ressortira en DVD en 2001 afin de souligner les 25 ans du film original. Cependant, une toute nouvelle partition musicale et de tout nouveaux effets sonores seront nécessaires en grande partie en raison de problèmes de droits d'auteur pour la bande originale. Dans la version vidéo officielle, les effets sonores émis par les voitures, soit ceux des moteurs, des pneus et des collisions, étaient totalement authentiques. Une dédicace à Toby Haneke sera ajoutée à la toute fin de la version remasterisée du film de 1974, sur lequel était écrite « À la mémoire de H.B. Haneke, le roi des accidents de voiture, Toby, tu manques à tes proches, amis et fans. » Du côté des points forts, eh bien sûr, pas besoin de vous dire que l'attrait principal de ce film indépendant est la poursuite finale de plus de 40 minutes qui comprend vitesse, cascade et accidents spectaculaires qui sauront ravir les amateurs de ce genre de film. Cette séquence tournera une page d'histoire qui ne sera jamais égalée à Hollywood, même encore aujourd'hui. Bien que certaines cascades paraissent simples, il faut se rappeler qu'il s'agit ici d'un film amateur et que ces dites cascades sont réalisées par des cascadeurs sans aucun trucage visuel. Gone in 60 Seconds étant un véritable exemple de ce qu'est une production indépendante. Haneke nous fait ressentir l'effet de vitesse dans son film en roulant à une vitesse folle, sans peur, et traite tout de même de son sujet très sérieusement, le film n'ayant pas vraiment de segment humoristique pour alléger l'atmosphère. Mais du côté des points faibles, eh bien, comme je le disais plus haut, il s'agit d'un film indépendant qui ne possède aucune qualité d'un film commercial hollywoodien. Le scénario est simpliste ici, tout comme la mise en scène qui, elle, est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, alors que la distribution est totalement nulle. Voici un type de produit que l'on pouvait voir dans les salles de cinéma durant les années 70, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui. Afin de faire avancer son histoire rapidement, le metteur en scène se sert de la technique de voix off, ce qui est un peu dérangeant car cela force l'auditoire à être plus attentif au dialogue, quelque peu ridicule, alors qu'une autre action sans intérêt se passe sur l'écran. Cela nous donne ici une première moitié de film pénible. Par chance, la deuxième partie du film sera plus intéressante. Une autre chance pour l'auditoire, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de séquences nocturnes, puisque ces dernières étaient ici très mal éclairées par le directeur de la photographie. D'ailleurs, la production en général fait très amateur et le produit ne sera sauvé que par la séquence de poursuite finale. La finale, cependant, nous laisse quelque peu sur notre faim, ne nous montrant pas ce qui arrive aux différents protagonistes du film qui seront bêtement laissés de côté à partir de la moitié du long métrage, nous donnant ainsi une conclusion trop soudaine. Du côté de la musique, eh bien, ce sera Ronald Haneke, ce compositeur espagnol qui n'a fait qu'une trame sonore dans sa carrière, soit Gone in 60 Seconds, et il sera accompagné par Philippe Khachaturian, ce compositeur américain qui avait également composé la trame sonore de Deadline Autotef. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore de Gone in 60 Seconds, version 1974.
Yeah. Woo! You know, I never met a woman who gave me any trouble. I get them any way I please and never stayed around for tomorrow. Well, I'll be gone. Until I met this gal in Illinois. She was a real hot piece of machinery. Lord knows now why I got to be free. And I'm gone, I'm really moving on. Said I'm gone in 60 seconds. Yeah. Well, I should have known better. But something is hot. Moment, just a one-man stop. Now I'm paying a price, trying to hold on. I got to be quick. Somewhere.
projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of Taste Thrill Treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There's soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
Michael, lass mal runter ein bisschen.
Weiter links.
Gut.
So, you couldn't find a car you like here in Germany?
No, I couldn't find a speed limit I liked in America.
Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand.
Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you.
Yeah! Oh, yeah!
Oh, my turn. Let's go.
That is one nice ride you got there, kid.
You guys still gonna take me in?
Not yet.
Bold moves. They happen every day.
See your next movie completely free. And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
Je vais prendre mon outil.
On peut se parler seul à seul?
Parler de quoi?
Parler de ton frère qui est dans une mer de noir. Un nommé Raymond Calitri. On l'appelle aussi l'ébéniste.
Décolle pas!
Il faudrait que je fasse des choses. Des choses que je me suis juré de ne plus faire.
Il faut l'aider, grand.
Il y a 50 voitures sur cette liste. 5-0.
Tu as 30 secondes pour faire ton choix.
Arrête de t'enflure !
Si on fait ça, on le fait à ma manière. Je dirige l'orchestre, vous recevez vos ordres de moi. Si ça vous pose des problèmes, vous avez qu'à foutre le camp.
Salut les filles.
Hey, chérie, je m'occupe pas de la portière, mais de la caisse. Allez, dégage ta graisse.
Je veux remercier ton grand frère, je crois qu'ils viennent de prendre ta place sur la guillotine.
Si on veut réussir, il faut se la jouer à l'ancienne école.
T'as pas une seule chance. Tu fais le moindre faux pas et je te fais enfermer pour longtemps.
On met tous nos œufs dans le même panier.
Mustang Shelby GT500 1967.
On va avoir du mal à trouver toutes ces bagnoles.
Qu'est-ce que vous avez d'autre au garage?
Gone in 60 Seconds, ou Parti en 60 secondes, est un drame policier qui a été distribué par les studios Touchstone Pictures le 9 juin 2000. Ce film américain d'une durée de 118 minutes a coûté plus de 90 millions de dollars à produire et amassera plus de 237,2 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Dominic Senna, lui qui avait réalisé les films California, Season of the Witch ainsi que Swordfish. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve les producteurs américains Jerry Bruckheimer, lui qui avait produit les films Beverly Hills Cop, Flashdance et Top Gun, ainsi que Mike Stenson, lui qui avait produit les films Remember the Titans et Gemini Man. Au niveau de la scénarisation, eh bien, ce sera le scénariste américain Scott Rosenberg qui a écrit le scénario, lui qui avait travaillé sur le script de Con Air et Jumanji, Welcome to the Jungle. Dans la distribution, on y retrouve Nicolas Cage, Angelina Jolie, Robert Duvall, Will Patton, Delroy Lindo, Giovanni Ribisi, Christopher Eccleston, Vinnie Jones et Scott Kahn. Un voleur de voiture retraité doit reprendre du service et voler plus de 50 automobiles en moins de 24 heures afin de sauver la vie de son jeune frère qui a échoué un précédent contrat le liant à un dangereux criminel. En 1995, Denise Shakarian-Aleki signera un contrat avec la compagnie Disney pour produire un remake du film Gone in 60 Seconds qui fut produit et réalisé par son défunt mari, Henry Bright Haleki, en 1974. Financé par la bannière adulte de la compagnie Disney, Touchstone Pictures, ce sera alors le chef de la production Michael Linton qui embauchera le producteur Jerry Bruckheimer, qui sera alors chargé de s'occuper de mener à terme le projet, Denise Shakarian-Haleki agissant, elle, à titre de productrice exécutive. Ce sera durant le tournage de Con Air que le scénariste Scott Rosenberg fut approché par Linton et Bruckheimer pour travailler sur ce projet. Les trois hommes travailleront alors sur plusieurs versions différentes du scénario avant de se décider sur la direction de l'histoire, se servant de la menace envers le jeune frère du personnage principal afin de forcer ce dernier à réaliser les différents vols de voiture. Pour le poste de réalisateur, Bruckheimer cherchait à travailler avec le metteur en scène Dominic Senna depuis 1992. Lorsque le projet lui sera présenté, le jeune metteur en scène acceptera le poste et commencera rapidement à chercher sa distribution, ce qui forcera alors Rosenberg à continuellement adapter son scénario au choix de Senna pour la distribution du long-métrage. Lorsque Senna signera pour le poste de réalisateur, le producteur Jerry Bruckheimer n'avait aucune idée que Senna avait initialement travaillé avec Toby Haleki à titre de caméraman sur le film de 1982, The Junkman. Collectionneur de voitures réputé, Nicolas Cage sera attiré par le projet de film non seulement à cause de l'attrait de l'automobile, mais aussi à cause du scénario dynamique. Pour Angelina Jolie, cette dernière, qui venait tout juste de remporter l'Oscar de la meilleure actrice de soutien pour le film Girl Interrupted, acceptera d'être dans ce film parce qu'elle également adorait les voitures, cette dernière conduisant à l'époque un camion Ford. Pour l'acteur Will Patton, celui-ci obtiendra le rôle du personnage de Atlee Jackson deux jours avant le tournage de ses premières scènes. Ce sera Cena qui l'appellera à la dernière seconde pour ce travail. Quant à l'acteur Delroy Lindo, Bruckheimer cherchait à travailler avec l'acteur depuis des années, mais des conflits d'horaires avaient toujours empêché le comédien de participer au projet du producteur. Finalement, Senna et Bruckheimer accepteront de jongler avec le calendrier de tournage afin d'accommoder le comédien et ainsi permettre sa participation au projet. Pour l'acteur T.J. Cross, il s'agira ici de sa toute première expérience sur le grand écran. Afin de se préparer pour son rôle, Nicolas Cage fréquentera l'école de conduite Bondurant à Phoenix, en Arizona. Cette école de conduite était très reconnue à Hollywood à cette époque et enseignait l'art du contrôle des voitures à grande vitesse aux acteurs hollywoodiens. Cage fréquentera deux autres auto-écoles, soit Willow Spring et Bobby Orr Stunt Driving School. Durant les pratiques de ses cascades pour Gone in 60 Seconds, l'acteur utilisera une Mustang Fastback 65 de couleur noire. Nicolas Cage exigera de faire lui-même la majorité des cascades derrière le volant d'Eleonore durant la production. Les seules cascades qu'il ne sera pas autorisé de faire étaient les sauts et les séquences dangereuses de la course à grande vitesse finale pour des raisons de sécurité évidentes. Giovanni Ribisi et Angelina Jolie se prépareront également en s'entraînant dans diverses auto-écoles ainsi qu'avec des mécaniciens professionnels. Ribisi ira même jusqu'à construire sa propre voiture, une Camaro 1967. Quant à l'acteur Robert Duvall, dont le personnage connaissait littéralement tout sur les voitures, l'acteur apprendra les techniques détaillées de la peinture à rayures et de la conception de peinture personnalisée avec un professionnel sur le terrain qui le surveillera sur le plateau pendant toute la durée du tournage. Pendant ce temps, quelques désaccords majeurs surviendront entre le réalisateur Dominique Senna et le scénariste Scott Rosenberg au sujet de la réécriture du scénario, forçant le retrait du projet de l'écrivain. Ce seront les scénaristes Jonathan Hensley et J.J. Abrams qui seront alors embauchés pour la réécriture, mais ces derniers ne seront pas crédités au générique du long-métrage. Ce sera le concepteur de production Jeff Mann qui agira en tant que gourou officiel d'Eleonore tout au long de cette production. Collectionneur de voitures passionné, dont le père était un mécanicien automobile hautement qualifié, Mann avait reconstruit et restauré plusieurs de ses propres voitures depuis qu'il était au lycée. Ce sera lui-même, avec l'aide du producteur Jerry Bruckheimer, qui fera la conception d'Eleonore, une Shelby Mustang GT500 de 1967. Mann fera appel au service de Steven Stanford pour l'aider à apporter les modifications et les spécifications demandées par Bruckheimer, qui acceptera le design et les couleurs du véhicule après plusieurs révisions. Ce sera la compagnie Cinema Service Vehicles qui sera chargée de construire quelques 12 Mustang Fastback pour la production. Chacun des véhicules fut conçu pour le tournage de différentes cascades. Sur ces 12 véhicules, seuls 7 survivront à la torture du tournage. La complexité de produire ces véhicules était de loin supérieure au film original de 1974. En effet, Haneke n'avait utilisé qu'une seule Mustang pour la majorité du tournage de la poursuite finale de plus de 40 minutes, ayant passé plus de 150 heures de travail à renforcer son véhicule. Suite au tournage du remake, deux des voitures restantes seront remises en cadeau à l'acteur Nicolas Cage ainsi qu'au producteur Jerry Bruckheimer. Le tournage aura lieu du 24 mai au 10 octobre 1999 à Los Angeles et à Long Beach, en Californie. Avec l'aide de Williams et du coordinateur Mike Antunes, les cinéastes ont recherché de nombreux véhicules pour dresser la liste des voitures volées. Au départ, Bruckheimer, Senna et Mann ont épinglé des photos sur le mur et ont passé plusieurs heures à choisir leurs préférés. L'étape suivante consistait à réduire cette liste pour inclure des voitures non seulement plausibles en termes de scénario, mais également disponibles. La liste continuera à changer tout au long du tournage. Les cinéastes durent compter sur 3 policiers en civil qui travaillaient pour l'organisation sur le vol d'automobiles du comté d'Orange en Californie, ainsi que pour un groupe pour la prévention régionale du vol d'automobiles d'organismes d'application de la loi multijuridictionnelle des comtés d'Orange et de Los Angeles. Un voleur de voiture réformé âgé d'à peine 20 ans sera également utilisé sur le plateau de tournage comme conseiller afin d'assurer la bonne logistique lors des différents vols de voitures. Durant le tournage, l'acteur Delroy Lindo a accidentellement détruit la BMW qu'il conduisait dans le film. En effet, Lindo, qui interprétait le personnage du détective Roland Castelbeck, pilotait une BMW 540i dans la scène de poursuite finale. Dans cette scène, Eleanor traverse une zone de construction où un boulet de démolition est sur le point de démolir un mur. Le boulet manque Eleanor, mais emboutit la voiture de police Jeep Cherokee juste derrière. La Jeep s'écrase à travers le mur, juste devant Lindo, qui appuiera alors sur les freins, mais ne pourra empêcher son véhicule de s'écraser à l'arrière de la Jeep, ce qui n'était pas censé se produire à l'origine. Les réécritures et l'improvisation de dernière minute étaient des thèmes connus pour l'équipe de production derrière Gone in 60 Seconds. Les modifications répétitives du scénario impliquaient souvent des modifications de scènes entières. La scène de poursuite finale changeait constamment, ce qui causera plusieurs nuits blanches au coordinateur de cascade. Puisqu'une partie de la poursuite se déroulera dans le centre-ville de Los Angeles, certaines parties de la ville ont dû être carrément fermées pour le tournage. D'ailleurs, même le pont Vincent Thomas a dû être fermé pendant une journée entière de tournage, la seule fois dans l'histoire depuis la création de ce pont où il n'a pas été ouvert au public. D'ailleurs, il s'agira ici de la partie la plus complexe de la chasse qui consistait à la fermeture du dit pont qui reliait alors Long Beach à San Pedro. Heureusement pour les cinéastes, la ville modernisait le pont périodiquement tout au long de cette année-là, le fermant par interminence durant deux week-ends en octobre. La régisseuse-superviseure Laura Sody Matterson a travaillé sans relâche pour obtenir les permis appropriés en sollicitant l'aide de la California Film Commission du California Department of Transportation, des villes de Long Beach et de San Pedro, du port de Los Angeles, ainsi que l'industrie du divertissement et de la société de développement. Le coordinateur des cascades, Chuck Pierneau Jr., et le superviseur des effets visuels ont travaillé avec le réalisateur pour créer une scène d'accident impliquant véhicules d'équipement de pompiers, des ambulances et des piétons sans méfiance. Le saut sur le pont sera, lui, tourné en plusieurs plans à l'aide de plusieurs véhicules. La première Mustang qui effectua le saut à partir d'une rampe sera détruite à l'impact. Une deuxième voiture, elle, sera propulsée depuis une rampe plus grande, mais survécut à la cascade en atterrissant dans une pile de carton pour amortir l'impact. Un troisième véhicule sera alors hissé du sol pour le positionner pour le vol dans les airs, alors qu'un quatrième véhicule sera utilisé pour la cascade d'atterrissage, cette dernière étant également détruite quand elle percutera le béton du pont. Même l'acteur Christopher Eccleston sera encouragé à participer aux différentes cascades, ce dernier se retrouvant attaché à un appareil appelé décélérateur. Eccleston filmera la scène de sa chute alors qu'il était à plus de 3 ou 4 étages dans les airs, attaché à un câble mécanique par un harnais que l'acteur portait sous son costume. L'équipe de cascade placera alors des capteurs de sécurité ainsi que de grands coussinets portables sur le sol pour amortir sa chute si quelque chose de fâcheux se produisait avec le câble. L'acteur réalisera la cascade plus d'une douzaine de fois. Il est à noter également que durant toutes les séquences de poursuite, le directeur photo et le réalisateur prendront la décision de tourner à 16 images secondes au lieu de 24, ce qui est la normalité, afin de donner un plus grand effet de vitesse aux différentes voitures dans le film. Une fois le tournage terminé, Bruckheimer décidera que la trame sonore du film devait être composée d'un mélange de chansons rock alternatif, de musique électronique et de hip-hop. L'album, qui sera distribué en juin 2000 via l'étiquette Island Records, réussira à atteindre la 69e place au Billboard 200 et la 25e place des meilleures bandes sonores de toute l'histoire d'Hollywood. Gone in 60 Seconds sera distribué en salle le 9 juin 2000. Lors de son week-end d'ouverture, le film sera distribué dans plus de 3000 cinémas nord-américains et empochera plus de 25,3 millions de dollars durant son tout premier week-end d'exploitation. À la fin de sa sortie en salle, le long-métrage avait amassé plus de 101,6 millions de dollars en Amérique du Nord et plus de 135,6 millions de dollars additionnels au niveau international. Cependant, en raison de ses coûts de production et de marketing élevés, on estime que le film a été déficitaire de plus de 212 millions de dollars. Le film recevra plusieurs nominations au Stinker Bad Movie Award de 2000, mais ne remportera que le prix du pire scénario de l'année ainsi que celui de la pire composition instrumentale pour un film. Angelina sera même nominée pour le prix de la pire chevelure à cet événement, mais sera sauvée par John Travolta et Forest Whitaker pour leur coiffure dans Battlefield Earth. Après avoir conclu un partenariat avec Ford, l'usine de Shelby a commencé à moderniser les Mustangs, apportant des modifications à la suspension ainsi que d'autres changements. Shelby vendra les différentes voitures par l'intermédiaire de nombreux concessionnaires de l'entreprise. Ces voitures étaient les Mustang Shelby, dont la première était le GT350 de 1965. En 1966, la demande pour ces voitures était si élevée que Ford avait repris la fabrication car l'usine de Shelby n'était pas équipée pour gérer ce genre de volume. Juste après la sortie du film de 2000, les répliques d'Eleanor basées sur la Mustang de 67 ont explosé. C'est alors que la productrice exécutive Denise Charkerian-Aliki déposera en 2024 une poursuite pour bris des droits d'auteur pour la ressemblance avec la nouvelle version d'Eleanor. Aliki remportera son procès contre Carol Shelby en 2008. Par la suite, la société Carol Shelby Enterprises fermera ses portes cette même année en raison d'irrégularités dans le numéro d'identification de véhicules et de l'incapacité de livrer leur voiture aux clients qui avaient déjà prépayé pour leur véhicule. Depuis 2014, ce sera le fabricant Classic Recreation of Tulsa en Oklahoma qui deviendra le fabricant sous licence de la réplique Eleanor utilisée dans le film de 2000, en utilisant des carrosseries Mustang Fastback de 1967 fournies par la compagnie Dynacorn Restoration Bodies. En décembre 2022, Shelby Truss remportera un procès contre Denise Charkerian-Aliki, lui permettant d'octroyer une licence à toutes les versions GT500 du style Eleanor. Suite à cette victoire, la société Shelby publiera une déclaration confirmant que Mme Aliki n'avait plus le droit d'intenter une action en justice sur l'apparence d'une voiture sous licence de la société. Cela mettra donc fin à un dossier juridique qui avait duré plus de 18 ans. Du côté des points forts, eh bien, ce remake possède une meilleure intrigue que la version originale, ce qui est une nette amélioration de ce côté. Comme tout film produit par Bruckheimer, cette version de Gone in 60 Seconds possède une mise en scène dynamique et innovatrice avec un visuel et une réalisation technique tout de même bien soignés. On a ici une distribution du tonnerre qui réussit à maintenir l'intérêt de l'auditoire grâce à plusieurs moments humoristiques et ce, malgré un film qui manque d'action et d'entrain au niveau de son histoire. Le point culminant du film est bien sûr cette scène de poursuite spectaculaire dans la dernière demi-heure qui comprend de belles séquences, mais qui nous laisse quelque peu sur notre faim, surtout avec sa conclusion réalisée avec l'aide de l'imagerie informatique dans un saut final irréaliste qui brise tout ce qui avait été fait précédemment. Du côté des points faibles, eh bien, la grosse faiblesse de ce film est le fait qu'il est extrêmement bruyant, surtout au niveau musical. L'histoire ne bouge pas assez et ne répond pas aux attentes proposées, soit celles de poursuites automobiles. Cela nous donne donc une longue mise en place qui dure plus de 90 minutes, le tout ne laissant même pas la place à cette distribution de haut calibre de nous montrer son savoir-faire, ce talent étant ici totalement gaspillé. D'ailleurs, c'est ce qui est triste ici au niveau du scénario, ce dernier ne prend même pas la peine de développer psychologiquement ses personnages, nous donnant ici des personnages caricaturaux avec des situations traditionnelles qui manquent nettement d'originalité, ce qui est surprenant, surtout avec la qualité des personnes impliquées tant en avant qu'en arrière de la caméra. Bien que la scène de poursuite finale soit explosive, les zoom-in, zoom-out et autres trucs visuels pour accélérer l'effet de vitesse des voitures enlèvent malheureusement toute la magie de cette dernière, nous faisant regretter quelque peu celle du film original de 1974. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur Trevor Rabin, ce compositeur africain qui nous avait donné les musiques de Armageddon, Deep Blue Sea et National Treasure, qui s'occupe ici de la version instrumentale du film. Je vous fais écouter ici le thème de Gone in 60 Seconds, version 2000. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Gone in 60 Seconds, version 1974, 6. J'y vais également avec un 6. Comme j'ai précisé un peu plus tôt, il s'agit d'un film indépendant. Ce n'est pas un film hollywoodien, mais cependant, les amateurs de poursuites pourront être vraiment intéressés par la poursuite finale. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film général. J'y vais également pour une cote pour tous, malgré d'énormes scènes de violence envers les différents véhicules. Du côté de Gone in 60 Seconds, version 2000, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec une cote 5, une meilleure histoire, bien que beaucoup plus ennuyant que le film original de 1974. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma nous cote le film général. J'y vais également pour une cote pour tous, malgré quelques scènes de violence et un langage quelque peu vulgaire. Du côté de la trame sonore, eh bien, il n'y a aucune trame sonore pour le film Gone in 60 Seconds, version 1974. Cependant, il y a deux trames sonores qui existent pour le Gone in 60 Seconds de 2000, soit bien sûr la trame sonore avec les chansons qui est sortie sous l'étiquette Island le 6 juin 2000, et vous avez également la trame sonore instrumentale du film de Gone in 60 Seconds version 2000 qui a été sortie sous l'étiquette Varese Saraband le 19 septembre 2000. Du côté du DVD et du Blu-ray, eh bien, le film original de 1974 est présentement disponible en DVD et en Blu-ray. Malheureusement, il n'est disponible qu'en version originale anglaise. Il n'y a pas de version française. Cependant, du côté de la version 2000, vous êtes capable d'avoir le film en DVD et en Blu-ray, en français et en anglais. Donc, ce sont des choses que vous pouvez ajouter à votre collection si vous êtes amateur de poursuites automobiles. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.